La sagesse de Duc. La sagesse de Duc.
Allez, bonsoir Jean-Tug.
Bonsoir Renaud.
Bon, ça va, ça va ?
Ça va, ça va.
Alors, contrairement à ce que j'ai dit la dernière fois, eh ben, les bacs de philo, c'est pas du tout début juin. Ça a beaucoup changé depuis mon époque. Maintenant, c'est carrément fin juin. Ils les font travailler jusqu'à la fin. Donc, du coup, on n'aura pas de sujet de bac 2021 pour la dernière émission de la saison.
Mmh. La 50e.
La 50e, exact. Donc, du coup, j'ai quand même pris un sujet de philo, mais un vieux, 1989. Un des sujets de bac S. Avec un peu d'art dedans. Mmh. Hein. Et alors la question du jour, c'est comment juger une œuvre d'art ?
Oui.
C'est intéressant ça.
C'est intéressant. Pauvres scientifiques, qu'ont-ils pu sortir là-dessus ?
Ça, c'est vrai.
Donc comment juger une œuvre d'art ?
Déjà, moi j'étais étonné qu'on puisse juger une œuvre d'art.
Eh bien oui, non, mais voilà, c'est la première. C'est la première impression que l'on a. Qu'est-ce que ça veut dire, quoi ? Comment juger une œuvre ? Comment ? Bon, ok, encore à peu près. Juger, alors là, il y a vraiment de quoi en causer. Une œuvre, et évidemment, le fameux mot « art », sujet tabou, par excellence. Donc oui, alors comment on commence là-dessus ?
Eh ben... Comment on commence ? C'est vrai ça. Moi, dans ce qui m'embêtait, il y a deux choses qui m'embêtaient. La première, c'était le fait de dire comment juger une œuvre d'art, ça veut dire qu'on estime de facto qu'on peut la juger.
Oui, c'est ça.
Qu'on doit et qu'on peut.
C'est pas comment peut-on juger
non,
une œuvre
d'art.
Non,
c'est comment la juger.
Peut-on juger une œuvre d'art ? Ça aurait pu être ça aussi.
Ouais,
non, c'est comment juger une œuvre d'art. Donc on assimile déjà
le
que c'est faisable.
Que c'est faisable et que presque on doit le faire, quoi. Et le deuxième truc, c'est juger, je me suis rendu compte que je savais peut-être pas vraiment ce que ça voulait dire, en fait. Voilà. Bon, après, l'œuvre d'art, on a fait plus que le tour en 50 émissions. Mais il n'empêche que... Donc après, le comment, eh ben, le comment, il vient après, de toute façon.
Donc, non, il vient après parce que on va être obligé d'associer les deux. Comment juger ?
Ouais, mais
juger, il aurait pu dire comment, pas évaluer, parce qu'il y aurait une notion de valeur, éventuellement d'argent, comment estimer, comment... Non, là, c'est juger.
Aye.
Autrement dit, on fait appel à des critères. On ne peut pas juger sans règles.
Eh bien, c'est ça mon problème, en fait. Est-ce qu'on peut juger sans règles ?
Non.
Non, mais oui.
T'es bien d'accord avec moi.
Oui, non, je suis d'accord avec toi. On ne peut pas juger sans règles. Mais maintenant, à partir du moment où on juge, on se ramène forcément à des règles. Et ça veut dire qu'on va rationaliser quelque chose qui potentiellement ne l'est pas.
Exactement.
Et c'est bien là que je suis embêté, puisqu'on part du principe qu'on peut le juger. Moi, j'aurais estimé que ce n'était pas possible.
Ben, va falloir penser que ça puisse l'être, sinon on va être un petit peu fade pendant une heure.
Mais on va penser que ça peut l'être, évidemment, évidemment.
Donc ça suppose des critères, quoi. Et en plus, tel qu'on définit nous juger, ça suppose un juge. Ça voudrait dire qu'on est tous en capacité d'être juge. D'une œuvre d'art.
Oui.
Selon des critères,
mais...
soit admis par tous, soit personnels.
Oui. Mais alors, ça veut dire que si les critères sont personnels,
Ce ne sont plus des critères.
S'ils sont uniquement personnels,
ça veut dire qu'on échappe complètement à la règle en général.
C'est-à-dire que oui, c'est ça, c'est que chacun est juge unique de ses critères.
Ben oui. Et ça, c'est pas possible. Un juge se réfère forcément à un code qui lui appartient pas.
Ouais, mais enfin,
Sinon, c'est de la dictature, c'est n'importe quoi.
Ouais, enfin, les critiques d'art, ils ont bien leurs propres critères.
Oui, mais ils sont malgré tout assimilables à un corps commun. Enfin, plus ou moins.
Ouais.
Si effectivement ils étaient tous, s'ils évaluaient tous par rapport aux mêmes règles, ils seraient tous identiques. Mais il n'y aurait plus de perceptions différentes, donc il n'y aurait qu'un seul critique d'art, suffirait. Ça suffirait pour toutes les œuvres. Et ça, c'est pas possible.
Et ça, c'est pas possible. Et c'est bien pour ça que je suis embêté avec juger, puisque le jugement, l'acte de juger, ça implique une impartialité.
Ça implique, en grande partie en tout cas, une impartialité.
Et ça veut dire que globalement, quel que soit le juge, aux ajustements près, on doit avoir le même résultat.
C'est là qu'on peut dire non.
Et ben, je ne suis pas forcément d'accord. Je pense qu'on peut pas dire non. Quand on regarde, en oubliant juste le côté un petit peu émotionnel d'une œuvre d'art, en dehors de cet aspect-là, dans n'importe quel domaine, le fait de juger quelque chose dans n'importe quel domaine amène une réponse qui va être la même aux ajustements près, quel que soit le juge ou l'ensemble des personnes qui jugent.
Alors à ce niveau-là, non. En tout cas pas tout à fait, parce que ça dépend du référentiel. Notre culture à nous va nous inciter à avoir un certain nombre de critères d'évaluation.
Oui.
Ce ne seront pas les mêmes pour d'autres cultures.
Oui.
Donc là, du coup, les gens, le critique d'art, voire même l'individu, ne va pas juger de la même façon. Parce que ses critères d'évaluation ne seront pas les mêmes étant donné sa culture à lui.
Oui, mais à culture égale, on devrait avoir le même résultat. Or, on ne l'a jamais.
À culture égale, ça veut dire quoi ?
Oui, alors évidemment, ça dépend où est-ce qu'on met la granularité de la culture, effectivement.
Oh, j'aime bien la formule, la granularité.
Ouais,
de
la... les gros grains.
Oh, là, tu l'as répété, ça.
Oui, bah oui. Non, mais c'est ça. C'est effectivement, si on zoome sur la culture d'une personne, évidemment, chaque personne est quasi unique. Maintenant, si on zoome sur la culture d'un pays ou d'une civilisation, on devrait avoir les mêmes résultats. Et c'est ce qu'on a, globalement.
Alors, en gros, oui. Vu de loin.
Ah oui, vu de loin, de très loin, oui.
Si on parle de la masse.
Oui.
Et, comme tu l'as dit, à culture égale.
Oui. Oui, bien sûr. Bien
sûr. Parce que quand même, on n'est pas... On n'a pas tous une approche équivalente de la culture. Aussi bien en tant que qualité qu'en tant que quantité d'informations.
On n'a pas tous les approches de la culture. Quand tu dis tous, c'est au sens, par exemple, au sein d'un même pays,
oui,
suivant
oui,
les affinités de notre métier ou je ne sais quoi, on n'a pas tous la même approche, c'est ça.
Exactement.
C'est-à-dire qu'on va estimer que ça sert à quelque chose ou pas, on va être sensible ou pas, on va s'y intéresser ou pas.
Tu vas trop vite.
Oui.
La sensibilité, c'est quand même autre chose, hein. Pour l'instant, on en est aux critères. Les critères oui. ne dépendent pas d'une sensibilité.
Oui, exact. On n'est que sur les critères. Et donc, les critères...
Donc après, c'est quelle est la capacité de l'individu à aborder une œuvre d'art ?
Oui, c'est ça, en fait. C'est exactement ça.
Tout le monde, là, n'a pas forcément un bac plus 8 en histoire de l'art.
Oui, mais est-ce que ça empêche pour autant d'avoir un jugement ?
On n'en est toujours qu'aux critères, on n'en est pas à la sensibilité.
Oui, on est toujours aux critères. Je vais avoir du mal un petit peu, là, je pense. Donc oui, effectivement, tout le monde n'a pas un bac plus 12, ou 8, ou 4, ou ce qu'on veut en histoire de l'art, ça c'est une certitude.
Donc bon, on va plus ou moins comprendre la volonté de l'artiste.
On va plus ou moins comprendre la volonté de l'artiste, mais après, le au-delà, c'est pas gagné. Si au-delà, il y a.
Eh ben oui. Eh bien oui, eh bien oui. Donc voilà quoi, c'est on en est. Après, il va y avoir, je parlais de référentiel tout à l'heure, les références absolues que l'on ne peut pas contredire. Tout simplement parce qu'on serait mal vu par les autres. Dire que la Joconde c'est nul, tu es tout de suite écarté des 9 dixièmes de la population.
Ouais, enfin pourtant, à part le sourire, c'est pas non plus. Non mais bon. J'aurais aimé que tu prennes Mozart, au moins là, bon. Mais la Joconde, ouais. Après, j'ai jamais
pensé. Universellement, mais... tout le monde doit penser que c'est un chef-d'œuvre.
Oui.
Après, j'ai le droit de dire, mais c'est se mettre à côté de la culture générale, mmh. que de juger, attention, mmh. pour les critères,
oui.
De juger que la Joconde ne mérite que de finir au fond d'un grenier.
Ouais, quand même pas. Non, mais justement, c'est une question de critères, parce que techniquement, c'est remarquable. La technique est remarquable.
Alors peut-être qu'il faut se trouver devant, hein. Je sais pas, je ne l'ai jamais vue en réalité.
En vrai, ouais, puis elle est morte, je pense, donc en plus, c'est pas simple. Mais... non, mais le tableau, effectivement. Effectivement, je ne l'ai jamais vu non plus en vrai. J'ai vu des représentations, des copies ou des images. Ce qui, à mon avis, n'aide pas. Donc, oui, il faut un référentiel. Enfin, il y a un référentiel, on a des critères. Donc.
Alors, donc maintenant. Comment juger une œuvre d'art si on a mis au point tous ces attendus, quels sont les critères admissibles par tous,
ouais.
Qui puissent définir une œuvre d'art et nous permettre de la juger?
Eh bien, c'est une excellente question et on va tous y réfléchir en écoutant un peu de musique qui peut-être est une œuvre d'art. Et là, on en était aux critères.
Oui, d'évaluation
d'une
qui puisse être admissible par tous pour juger d'une œuvre d'art.
Admissible et partagée, du coup.
Et partagée.
Ok, ok. Donc, dans les critères, qu'est-ce qu'on peut avoir de critères En plus, j'ai dans l'idée quand même que les critères évoluent en fonction du temps aussi.
Ben, de toute façon, oui. De toute façon, oui. Ils vont dépendre forcément de l'époque,
oui.
de la civilisation. Au deux bouts de la planète, ça va être différent. De la culture de chacun. Mmh. Ceci dit, néanmoins, il doit y avoir des points communs.
Il doit y avoir des points communs, forcément. En fait, l'idée, là, ça va être... Oui, c'est ça. En fait, il doit y avoir une espèce de critère de base qui doit être universel.
C'est le mot que j'allais dire. C'est, y a-t-il des critères universels?
Ah, eh ben, c'est pas gagné cette affaire.
Non.
Parce que dans les critères, là, spontanément, dans les critères, tu vas avoir quoi? Tu vas avoir l'argent, la valeur.
Oui, alors là.
Non, c'est les critères actuels, ça plutôt. On va avoir la technique, l'esthétique, le message.
J'ai trouvé un mot pour aujourd'hui.
Ah.
La crématistique.
Crématistique.
Oui,
alors,
crématistique.
Attention. Crématistique.
C-H-R-E.
Ah, il y a un H, ça change
oui,
tout ça.
Oui, bah, complètement.
Oui, parce que je t'en dis, on va mettre le feu au... Mais non, non, il y a un H,
non,
donc
non,
on ne met pas le feu.
C'est pas crématorium, c'est crématistique.
Crématistique, crématistique, crématistique. Crémachrome, couleur
Non, argent.
Ah, argent monnaie ou argent monnaie, couleur monnaie, argent monnaie, d'accord. Monnaie. D'accord, c'est mieux, c'est plus classe que de dire argent.
Oui.
Hein?
C'est ce que tu disais à l'instant. C'est ramener tout à la monnaie.
C'est notre civilisation actuelle, quand même.
C'est quand même notre civilisation actuelle. Donc, il y a deux types de crématistiques, mais on a peut-être le temps d'en causer, ça sera un peu plus tard. Tu retiens, donc on en causera quand on n'aura plus rien à se dire.
Oui, un peu plus
mais
tard.
Mais j'ai bien aimé le mot.
Ah oui, il est sympa, celui-là, crématistique.
Ouais, donc ça, voilà. Donc on va échapper pour l'instant à la crématistique.
Voilà, c'est pour ça que je l'abordais de suite parce que je sentais bien que ça dégage.
Qu'est-ce que l'on peut admettre?
Alors.
On a parlé tout à l'heure. Tu dérivais doucement vers la sensibilité,
oui.
la sensation. Je pense néanmoins que l'un des critères est celui-là. Il faut que l'œuvre procure une sensation.
Une émotion ou une sensation?
Une émotion, si tu veux.
Non, non, mais c'est juste pour, cibler. Une émotion, ouais. Je pense
que c'est important.
Ça, c'est important.
Il faut que l'œuvre d'art que tu as devant toi te fasse arrêter.
Oui, ça t'interpelle un peu, quoi.
Voilà, il faut que ça t'interpelle, comme un fameux tableau que tu dis de Vermeer, mais qui ne l'est peut-être pas.
Oui. C'est le tableau qui m'a interpellé, c'est pas l'auteur, effectivement.
Et voilà, tu le vois et tu t'arrêtes parce que il te dit quelque chose selon lequel tu as envie d'entrer. Là, en fait, c'est une sensibilité partagée ou une sensation partagée ou une émotion, qu'on ne sait pas, entre le peintre
et toi qui reçois
son œuvre.
C'est ça, c'est exactement ça. Entre l'artiste et le Pékin lambda qui va passer devant l'œuvre et qui va se dire « waouh ».
Alors, quel que soit ce qui va t'arrêter. C'est-à-dire que suivant la culture de chacun, on va ressentir les choses différemment.
Oui, ça nous parle de manière différente, voilà. Mais ça nous interpelle plus ou moins.
Ça peut être un critère quand même.
Oui, je pense. Le côté, ça, oui, l'interpelle, oui. L'émotion, la sensation. Après, je pense que je reviens un peu sur la technique, parce que pour moi, la technique est un critère aussi. C'est-à-dire qu'un artiste sans technique n'est pas un artiste. On a déjà discuté, mais si tu n'as pas de technique, tu n'arrives pas à faire passer ce que tu as envie de passer.
Bah, la technique, en principe, te permet de traduire ce que tu veux.
Oui, voilà, c'est ça.
C'est tes compétences qui vont faire que la personne en face reconnaît ce que tu as voulu dire. Donc, effectivement, la technique est forcément un critère d'évaluation.
Oui.
Pour juger de la qualité d'une œuvre.
Oui. Et derrière, il y a quoi ? L'esthétique, ça, c'est hyper subjectif.
Oui, parce que là, du coup, c'est franchement culturel.
Oui.
Alors, il y a peut-être autre chose.
Oui, j'aimerais bien qu'il y ait autre chose, en fait, pour être tout à fait honnête. Là, c'est un peu, comment dire, voilà quoi.
C'est ce qu'a voulu dire l'artiste.
Le message.
Oui.
Enfin, je trouve que message, c'est peut-être un peu fort.
Oui, c'est pas le mot message qui convient.
Non.
Malraux a dit une chose extraordinaire.
Oui.
Le monde de l'art n'est pas immortalité. Il est métamorphose.
Hop, hop, hop. Le monde de l'art n'est pas immortalité, il est métamorphose. Dit autrement, l'œuvre n'est pas immortelle, elle évolue dans le temps. L'artiste n'est pas immortel.
L'œuvre d'art ne veut pas tendre à devenir immortelle.
Oui.
Elle ne veut pas dépasser son époque.
Oui, d'accord, ça va. Mais c'est une métamorphose, moi, qui m'embête, là, dans sa phrase. Je ne comprends pas ce qu'il y a à faire, la métamorphose.
Ça veut dire que l'artiste doit proposer sa vision.
Bah, c'est ça, le terme.
Il transfigure le réel.
C'est ça, c'est vision. C'est pas message, c'est vision.
Je te l'ai dit, voilà.
Voilà, c'est vision. Oui. C'est vision, c'est exactement ça.
C'est-à-dire qu'il doit apporter quelque chose qui n'existe pas dans une photo.
Oui. Voilà, et encore, ça dépend du photographe.
Et encore, le photographe peut être absolument excellent, génial et tout. Hein,
oui.
Mais il va tendre à artificialiser le réel. Après, ça va être le cadrage, la lumière. Ce qui va faire une œuvre d'art quand le photographe de génie fait sa photo.
Oui.
Mais là, on attend d'un peintre qu'il apporte autre chose. Il doit avoir quelque chose à dire du réel. On ne doit pas confondre, et on ne confond pas, le même paysage peint par Monet et peint par, qu'est-ce qu'il peignait en même temps que lui, Renoir peint en même temps que lui à un moment donné.
Ouais.
Il y en a eu d'autres, Pissarro, qui peignait les mêmes paysages.
Pissarro à ce moment-là plutôt.
Et ce ne sont pas les mêmes peintures pour le même paysage.
C'est ça, exactement.
Donc ce sont bien deux artistes qui produisent une œuvre.
Oui, avec la même technique qui plus est.
Et en plus, avec la même technique en réel. Oui. Le paysage en extérieur.
Hein. Oui, non, c'est ça. Donc, et là, c'est intéressant puisque justement, ils n'ont pas la même vision des choses, ils n'ont pas le même ressenti, donc ils ne ressortent pas, c'est pas le terme, mais bon, la même chose. Ok, donc on a émotion, on a technique, on a vision. Mais ça, c'est le talent, en fait.
Non, justement. La transfiguration de l'artiste, c'est pas le talent. Pour moi, c'est autre chose. C'est plus que ça.
Ah oui, c'est plus que ça. Mais ce que je veux dire, c'est que une personne qui arrive à interpeller, disons, la majorité, qui a une excellente technique et qui arrive à faire passer son message, c'est quelqu'un qui a du talent. C'est sa définition.
Ah bah oui, oui, oui.
Non,
oui,
mais c'est ça. C'est juste une...
La globalité, oui, donne un talent.
C'est ça. Ok, donc on a, voilà.
On aura trois critères qui, en principe, devraient permettre à chacun, à culture égale, comme tu le disais au début.
Oui, c'est ça, à culture égale, d'avoir un jugement, d'avoir des critères.
Une œuvre d'art.
D'être en capacité de la juger. Mais alors, du coup, là, c'est le comment qui va me poser problème maintenant. Ben non, parce que, ok, d'accord, donc comment juger une œuvre d'art? On part du principe que juger, pour juger, il faut un référentiel. Le référentiel, on l'a globalement mis là sur trois critères majeurs, du coup. Ok, ça c'est bien, mais comment on estime? Parce que c'est quand même ça la question.
Oui, donc comment juger
Après,
ça dépend, oui, ce qu'on va mettre dans le mot comment. Le comment, on l'a défini parce qu'on a des critères.
Oui, mais enfin, les critères.
Il suffit d'appliquer les critères à chacune des œuvres qu'on rencontre, ou en tout cas qui sont reconnues comme telles, et après on y est sensible ou pas, suivant les critères qu'on a définis.
Oui, parce qu'en fait, quand on dit comment juger une œuvre d'art, on part du principe que ce qu'on a en face de nous est déjà qualifié d'œuvre d'art,
ah
au
oui.
final. Et
ah
ouais,
oui,
c'est
ah
ça
oui,
que j'avais
ah
pas
oui,
bien
ah
senti,
oui.
moi. Ah oui, je l'avais pas vu, ça. Ah oui, moi, j'étais plus sur tout et n'importe
début.
Quoi. Oui, non, non, ça, en fait, c'est ça. C'est-à-dire qu'on a déjà une œuvre... Enfin, on a déjà une quelque chose qui a été fait, qui est déjà, de fait, enfin, qui est une œuvre d'art. Et à partir de là, comment on peut la juger?
Voilà, oui, en fait, c'est... Oui. On ne se pose pas la question, est-ce une œuvre d'art ou pas?
C'est ça, alors que moi j'étais un petit peu là-dessus, mais pas du tout en fait. On ne se pose pas la question. Mais alors du coup, est-ce que ça revient à classer les œuvres? Celle-là est meilleure que celle-là, etc.
Logiquement non. Mais en fait, oui.
Ben non, mais c'est ça, parce qu'à partir du moment où on a des critères, on va évaluer sur
ben,
chaque critère.
Forcément.
On peut mettre des couleurs, mais bon, ça revient à mettre des chiffres ou des quelque chose, quoi. Donc à un moment donné, ça revient à classer les œuvres.
Ça revient, effectivement, à déterminer des valeurs différentes. Alors, encore une fois, par le plus grand nombre ou pas?
Ok, par le plus grand nombre.
Bah oui, on est dans la culture populaire ou dans la culture élitiste? C'est bien plus compliqué que ça en a l'air, cette histoire, parce que on est dans une, à une époque où tout ou presque devient œuvre d'art. Quand on voit le nombre de nouveaux musées que l'on crée, c'est faramineux.
Oui, mais est-ce qu'un musée a pour vocation de mettre en avant une œuvre d'art ou est-ce qu'un musée a pour vocation de mettre en avant une thématique?
Bah oui, bon, évidemment. Le musée de la mer, le musée de la briqueterie de je ne sais pas quoi.
Non, mais c'est ça.
C'est effectivement autre chose.
On
est plus à la mémoire, à l'histoire qu'à l'œuvre.
C'est ça, il y a énormément de musées qui naissent suite à des fouilles archéologiques, où là, le côté œuvre d'art, il est lointain. C'est plus des musées d'histoire.
Quoique.
Hein. C'est marrant, je le sentais, le quoique, là. Je le voyais arriver, mais... Oui, puisque...
Quoique. Évidemment, si tu sors trois osselets et que tu les mets dans un musée, ben, ce ne sont pas des œuvres d'art pour autant. Par contre, si tu sors l'amulette qui l'accompagne, c'est autre chose.
Oui, puisque globalement, l'amulette, elle a été faite avec une certaine technique.
Ben oui.
Elle donne une certaine vision d'une époque et elle t'interpelle par sa forme.
Exactement. Alors après, elle est soit artistique, soit elle est simplement faite pour son utilité. D'où d'ailleurs, qu'est-ce qu'une œuvre d'art?
Oui. Oui. On s'en était quand même bien sorti avec cette affaire pour la faire très très courte. Hein. l'œuvre d'art, c'est quelque chose qui, par essence, ne sert à rien. Et oui, comme dirait Dédé, c'est le plus court chemin qui relie l'homme à l'homme.
Oui, enfin Dédé, il s'appelait
André Malraux, pardon. Non, mais voilà, c'est ça.
L'art, c'est le plus court chemin de l'homme à l'homme, oui.
J'aime beaucoup cette vision des choses. Ça sert à rien et c'est le plus court chemin de l'homme à l'homme.
Alors voilà, donc d'où ce que je disais à l'instant, l'amulette, l'épingle que l'on trouve à côté des reliques, est-ce une œuvre d'art, parce que ça a 2000 ans, ou pas? Parce qu'en fait, pourtant l'amulette était bien votif, donc a priori ce serait plutôt une œuvre d'art. Mmh. Mais l'épingle, ça avait un nom. La fibule, je ne sais plus quoi.
Oui, c'est ça, je ne l'ai pas là. Hein,
donc, qui avait quelque chose, qui avait une utilité. Hmm? Est-ce que ça peut être une œuvre d'art? Parce que ça a 2000 ans.
Oui, a priori non, sauf si elle est décorée.
Voilà.
On y arrive toujours. Le côté qui sert à rien, mais qu'on apprécie beaucoup.
Mais voilà, quoi, c'est... tu la sortirais si tu pensais là, maintenant, tout de suite, mais... l'utilité de l'inutile ou son inverse, enfin un monde qui ne reconnaît pas l'utilité de l'inutile est un monde d'esclaves et de robots, un monde sans esprit, un pays sans esprit.
Oui.
UNESCO.
Oui, c'est ça, merci. C'est ça. Je me souviens d'un direct là-dessus.
Donc, un objet utilitaire peut devenir une œuvre d'art si la personne qui l'a fabriqué, il y a mis autre chose que d'avoir sa propre utilité intrinsèque. Il y a apporté une volonté quelconque qui l'a fait, qui fait donc oui, cet objet différent.
C'est ça,
dans lequel on va retrouver les trois critères que l'on a mis
c'est
en
surtout,
avant.
Surtout, ça interpelle, quoi.
Oui, non, mais ça, voilà, quoi, c'est ça.
Oui. C'est pas mal ça. On se pose deux petites minutes avec un peu de musique et puis on continue. À tout de suite. Donc c'est ça, le petit truc qui fait que ça devient une œuvre d'art en fait. C'est ce qu'on était en train de dire globalement. Oui. Qu'un objet utile au quotidien reste utile, mais par sa décoration, par son à la limite son utilité détournée, ou par son inutilité qu'on accroche au mur, hein, ça devient une œuvre d'art. Mm-hmm. C'est ce qu'on est en train de dire. Donc on est toujours sur comment juger une œuvre d'art. Donc là, on est plus à juger... Le fait de juger une œuvre d'art, ça revient quand même à, sans vouloir les classer, mais tout au moins, ça sous-entend qu'il y en a des meilleurs que d'autres.
Oui, on en était là tout à l'heure. Alors effectivement, on parlait des musées.
C'est ça, on en était au musée.
On n'était pas forcément d'accord, parce qu'effectivement, maintenant, on a de telles difficultés à concevoir un avenir qu'on se réfugie dans les objets du passé. Et on les expose.
Oui.
Ça, c'est la peur que l'on a actuellement, l'incapacité que l'on a d'ailleurs à maîtriser notre propre avenir. C'est de la folie actuellement. On ne peut plus... je ne vois pas qui... Enfin, il y a certainement des gens qui ont des perspectives exactes, parce qu'on peut toujours imaginer un avenir et ça sera un échec total. Mais entre le numérique, la mondialisation, l'argent, tout ça, on ne sait plus rien.
Oui, là, on va devenir
on ne sait plus rien du tout. Donc, eh ben, on se réfugie sur ses propres bases.
Oui.
Hein,
oui, sur ce qui a fonctionné. Quoi.
Exactement, on refait des fondations. Là.
Oui, mais enfin, le problème, c'est qu'on ne monte pas grand-chose dessus.
Si, nous.
Oui, oui, non, oui, oui.
Donc, oui, on c'est se ça, repose donc. Sur de nouvelles... Oui, oui, on élargit nos fondations parce qu'on ne fait pas imaginer ce qui va nous arriver demain.
Oui, c'est
donc
ça.
Donc maintenant, tout est matière à musée.
Oui, c'est ça.
Ceci dit, il y a bien quand même des musées qui, de plus en plus, qui sont là pour tel artiste. Encore une fois, j'ai été, moi, épaté, je l'ai peut-être déjà dit dans une émission, par un artiste à Lorient. Non. Au Havre.
Ah oui, on n'est plus en Bretagne, là.
Au Havre, oui, c'est bien au Havre.
Oui, oui, si c'est ce... Oui, je pense que c'était au Havre.
Le musée de Boudin, un peintre impressionniste.
Oui.
Qui peignait des vaches.
C'est ça, c'était au Havre.
Et alors, il a peint des centaines de vaches. Hein. Mmh. Dans les tout petits tableaux, qui font quoi 40 cm par 30, même plus petit que ça.
Oui, c'est des gros A4, quoi.
Des gros A4, oui.
T'as un et petit A3 et un gros A4.
Et dans le musée, il y en a une centaine, quoi. Les uns à côté des autres.
Oh, ça doit être extraordinaire, ça.
C'est génial.
Ah ouais, t'as un troupeau de vaches, quoi.
Oui, sauf qu'il n'y a qu'une vache à chaque fois.
Mais c'est ça qui est bon, c'est un troupeau, mais c'est pas un troupeau.
Et c'est fabuleux, quoi. Il faut avoir vu ce musée-là pour comprendre ce que peut être une vision d'artiste. Parce qu'à la fin, il y a des tableaux où il n'y a même plus la vache, mais on sait qu'elle est là.
Oui, non, mais c'est surtout ça qui est intéressant.
C'est la transfiguration.
Ouais.
Tu la vois, mais en fait, elle n'est pas représentée.
Et alors la question, c'est si tu n'as pas vu les tableaux avant les autres, est-ce que tu la vois quand même?
Ben, je ne sais pas. Mais
c'est ça, la vraie question.
Oui, effectivement.
C'est un peu la différence entre Boudin et...
C'est fabuleux. Vraiment, là, j'ai oui. pris...
Picasso, quoi.
J'ai pris une leçon. Là. Non, non, parce que c'est bien figuratif.
Oui, non, mais...
C'est pas du tout déformé. C'est, oui. c'est finalement le paysage qui envahit la vache.
Oui, donc en fait, c'est ça. Ok. Oui, mais on avait parlé, exact.
Bon,
et là, c'est pareil, on est sur de la technique, en fait.
Et bon, il a fallu, à un moment donné, que la ville du Havre se détermine et propose un musée, parce que tout ça aurait pu s'éparpiller n'importe où. Et ben non, paf, tout est revenu au point de départ, parce qu'effectivement, il était du Havre.
Ouais, c'est ça.
Oui. Donc, après, c'est un problème, on va retomber dans la créma...
C'est ça.
Mais
c'est
dans
pas
l'immédiat,
plus tard.
Quand tu vas à Albi,
oui.
tu as le musée Toulouse-Lautrec,
oui.
où il y a des centaines de dessins, de peintures, d'affiches de Toulouse-Lautrec. Donc, à chaque ville qui a son quelqu'un
de connu, en fait, un artiste
représentatif, il y a son musée. À Pézenas, le musée Bobby à Pointe.
Oui, c'est ça, mais est-ce que c'est pas dans le cadre d'un devoir de mémoire plutôt que se replier sur soi-même et.
Pas que.
Parce que si on reste sur le monde artistique, le principe il est assez simple. Tant que le gars est vivant, on est sur des galeries, puisqu'il y a un côté marchand. Mmh. Et quand le gars est mort, et s'il a été suffisamment reconnu en tant que tel, on va lui faire un musée. Mais un musée, c'est juste une galerie, c'est pas à vendre ce qu'il y a dedans, quoi.
Il peut y avoir une galerie et un musée.
Oui.
Oui, je veux bien l'admettre. Néanmoins, il faut d'abord reconnaître une qualité artistique, donc les critères que l'on a définis, pour que l'artiste en question mérite de finir dans un musée, oui. dédié à son nom.
Oui, mais en fait, c'est pas l'artiste qui fait l'œuvre d'art, c'est le contraire.
Oula, il est parti loin, là, tout à coup. Là, ça y est, ça lui a échappé.
Mais non, mais on l'a déjà discuté. C'est pas l'artiste qui fait l'œuvre, c'est l'œuvre qui fait l'artiste. C'est-à-dire que c'est le fait de faire une œuvre d'art qui fait que le gars qui l'a fait est un artiste.
Alors, ce n'est pas l'œuvre qui fait l'artiste, c'est ça que tu as dit ?
Non, c'est l'œuvre qui fait l'artiste, c'est pas l'artiste
qui fait l'œuvre. C'est l'œuvre qui fait l'artiste, ce n'est pas l'artiste qui fait l'œuvre.
Tout au moins au début.
Ce que tu veux dire, c'est que l'artiste ne cherche pas à faire une œuvre.
À partir du moment où c'est artiste, oui, si, il essaye. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est la reconnaissance de son travail en tant qu'œuvre qui va faire de lui un artiste. Moi, demain, je me déclare artiste, je fais quelque chose. J'ai aucune technique, j'ai pas de vision, je vais générer aucune émotion. J'ai beau me déclarer artiste, je serai jamais un artiste.
Oui, c'est le cas des chanteurs actuellement pour la 90% d'entre eux.
Non, mais c'est ça. Mais après, est-ce que tous les chanteurs sont des artistes ? Je suis pas sûr. Il y a un côté ronron dans les oreilles, etc., qui est nécessaire.
Mercantile.
Oui, non, mais il y a autre chose, quoi. Mais, et après, il y a dans le lot des gens qui se disent artistes, mais qui ne le sont pas, mais il y en a qui le sont. Et c'est le fait de reconnaître leur travail en tant qu'œuvre d'art. De facto, le gars qui a fait une œuvre d'art est un artiste.
Alors oui, de toute façon, c'est ce qu'on disait au départ, on peut imaginer que quelqu'un ait envie de créer quelque chose. Une œuvre. Pas forcément d'art, une œuvre.
Une œuvre. Il crée son œuvre.
Avec sa propre technique, parfaite ou pas. Après tout, le douanier Rousseau n'avait pas une technique non plus absolument extraordinaire.
Hein. Il avait la sienne. C'est-à-dire qu'au début, il n'avait rien.
Oui. Avec une sensibilité et une vision.
Oui, on est là-dessus. On est bon là.
Ça, ce sont les critères qu'on a définis.
Exactement.
Pour l'instant, on en est à ces critères par l'artiste. Il faut maintenant que ces critères soient reconnus comme tels par celui, par le visiteur, par celui qui regarde l'œuvre.
Oui, par le public en général, par les gens, on va dire.
Et s'il y a osmose, si ça se rencontre,
c'est ça.
Là, du coup, on a une œuvre.
C'est ça. Et si on prend, c'est bien de Denis Rousseau, parce que la catégorie « je dessine avec mes pieds », c'est pas mal, ça. Non, non, mais bon, il a une technique qui est relative, qui fait ce qu'il peut. Il a par contre une vision des choses qui lui convient bien, dans sa façon d'exprimer ce qu'il ressent. Et du coup, il provoque forcément une émotion. Au final, ça devient un artiste, il est reconnu en tant que tel. Et effectivement, sa façon de dessiner, qui peut être une façon qui, au début, on dit « mais il ne sait pas dessiner ce mec-là », ben en fait, si, c'est ça, juste sa propre technique. Puisqu'il est quand même capable de rester sur un truc comme ça pendant 25 tableaux, quoi.
Ben, c'est ce qu'il a fait, d'ailleurs.
Oui, mais je dis 25, je suis gentil. Hein. Non, mais c'est ça, ce que je veux dire, c'est que ça, la reconnaissance du public ou de qui on veut dans son travail, le fait qu'on ait reconnu que ce soit des œuvres d'art, c'est ce qui a fait de lui un artiste.
D'où son musée à Laval.
Oui, parce qu'il est de là-bas, surtout. Mais
il est de Laval. Le facteur cheval.
Oui.
Avec son... comment ça s'appelle déjà, sa maison, là ?
Oh là là, son château, là. Ouais. J'ai mangé son nom. Ça, oui, alors là, on va pas y arriver.
Non, on va pas y arriver.
Mais bon, effectivement, son château qui a été fait de briques et de broc sur 50 ans, là.
Qui n'exprime, finalement, qu'une vision, qu'une émotion. C'est même pas une émotion, d'ailleurs. Un délire.
Ouais, enfin c'est quand même un délire structuré.
Sans aucune technique. Il est facteur.
Il n'y a pas de technique, ouais.
Il est facteur au sens propre du terme. Enfin, non, parce que on peut être facteur d'orgue. Postal.
C'est un facteur postal, ouais.
Qui va ramasser des cailloux.
Et qui les assemble.
Pendant sa tournée et qui en fait.
Un château.
J'ai vu passer, là, entre deux neurones, le nom de.
Oui,
sa maison.
Mais puisqu'elle est connue en plus. Hein.
Ben oui.
Mais ça donne quelque chose d'extraordinaire. Et en fait, on dit qu'il n'y a pas de technique. C'est là aussi, je ne suis pas d'accord.
Il y a, ben si, ben parce que ça tient debout. Mais,
c'est pour ça qu'il y a de la technique en fait.
Mais pas plus que ça. C'est-à-dire, on parlait de Léonard de Vinci et sa technique absolument irréprochable. Celle du facteur cheval est primitive.
Oui, mais elle est là.
Mais elle est là. Par contre, il y a une vision extraordinaire.
Oui.
Il sait où il va aller quand même, plus ou moins. Mais Il y a une cohérence. Dans son œuvre, il y a une cohérence.
Alors qu'il a cohérence dans son incohérence, exactement.
Eh oui. Alors qu'il n'y a fait aucun plan, forcément.
Rien.
C'est, voilà, quoi, c'est... ça paraît. Alors, on revient maintenant à la classification
c'est ça.
Des œuvres. Mm. Alors, on peut dire que oui. Inévitablement, il y a classification, même si elle n'est pas volontaire.
Oui, mais c'est ce qu'on fait depuis tout à l'heure, puisqu'on a quand même clairement mis Léonard de Vinci, Vermeer d'un côté, et Facteur Cheval et Rousseau de l'autre, quand même.
Oui, on n'a pas pour autant déterminé s'il y en avait un qui était supérieur à l'autre. Hein.
Non, sauf que pour démontrer que la technique ou la vision avait plus ou moins
n'était
d'importance...
n'était pas suffisant voilà, pour déterminer...
C'est ça, on a pris du Rousseau et compagnie, et pour dire que la technique était irréprochable, on a pris autre chose. Donc, instinctivement, on a quand même fait un classement. Un classement qui est basé non pas sur notre approche personnelle, mais sur notre culture, sur ce qui se fait, et sur les gens qu'on n'a pas envie de se mettre à dos.
Ceci dit, on pourrait quand même dire que la technique n'est franchement pas le seul critère...
Non.
D'évaluation d'une œuvre d'art.
Et moi, j'irais même plus loin que ça, parce que je pense qu'un artiste qui n'a pas de technique ne pourra jamais être un artiste.
Ben justement, on peut dire quasiment que si. Parce que le facteur cheval, tu ne peux pas dire que c'est sa technique qui nous retient. C'est sa propre vision.
Oui, il n'empêche que...
C'est sa propre cohérence interne.
Ouais,
c'est pas sa technique.
Il a... Ouais, bon...
Pourtant... Il est bien classé monument historique.
Oui, et ce qui me fait dire qu'il y a quand même une technique derrière qui est quand même très présente, c'est que je connais personne qui est capable de faire tenir une maison de briques et de broc sans avoir une certaine réflexion technique et une certaine technique, justement.
C'est, et peut-être qu'il l'a, il l'a acquise en construisant, tout simplement.
Oui.
C'est comme les cathédrales gothiques, hein. Si tu t'es planté au départ, ça se casse la gueule, tu recommences, puis c'est tout.
Oui, c'est ça, mais il n'empêche que... j'insiste un peu sur la technique parce que si on prend l'art contemporain,
c'est une technique basique statique.
Oui, c'est clair. Oui.
Oui. La même chose, comment il s'appelle, Robert Tatin. Mmh.
Robert Tatin, c'est clair.
C'est conçu. Il n'y a pas réellement une réflexion de départ technique.
Non, il n'y a rien. Il n'y a rien. Robert Tatin, il n'y a rien.
Puisque la gravité est ainsi, que ça va tenir.
Oui, oui.
Comme le facteur cheval. Ah non, j'ai pas réussi à le convaincre.
Donc... Non, parce qu'il y a quand même une obsession sur le caillou, la couleur du caillou, le caillou à la bonne place.
C'est autre chose.
Mais oui, mais n'empêche, c'est une technique derrière de réflexion, de machin, de bille. T'attends, il n'y a rien.
C'est une vision.
Oui, on est dans la vision, exact. On est dans la vision.
Quelle que soit la couleur du caillou, elle va tenir, c'est le bon endroit, pour
On est dans la vision.
Donc, le classement. Oui, le classement. Parce que, comme on l'a dit à l'instant, il y a des monuments historiques. Il y a des mobiliers qui sont conservés.
Oui.
On les classe par rapport à d'autres qui ne le méritent pas. Donc, il y a bien un classement.
Oui.
L'UNESCO fait la même chose.
Oui. Oui. Parce que maintenant, on met tout à l'UNESCO, de toute façon. Non, mais c'est vrai.
Même l'immatériel devient...
Surtout l'immatériel, ça, c'est la grande classe. Donc, non, mais c'est bien.
Donc, voilà. Il y a forcément, effectivement, une notion de hiérarchie.
Oui.
Qu'il ne devrait pas y avoir, mais...
Bah, si, quand même.
Qu'il y a nécessairement, parce qu'on estime que certaines œuvres méritent un soutien financier, d'être conservées aux terroristes prêts à Palmyre ou ailleurs.
Voilà.
Parce qu'ils vont être représentants de quelque chose qui nous dépasse, là, carrément. Je ne dis plus comment juger une œuvre d'art. C'est que cette œuvre d'art est le reflet de notre humanité.
Oh là là, oui, l'œuvre d'art est le reflet de notre humanité. Et on va réfléchir un petit peu pendant une pause, là.
Ça t'a calmé, ça ?
Ah oui, là, oui, calmé net.
J'ai trouvé mon étoile et je peine. Et pourquoi tant de haine? La vie m'a causé quelques problèmes. J'ai pris le large et maintenant, dans la nuit je pars et je quitte la maison. Et je laisse derrière moi un peu d'espoir et je pars en chantant.
Dernière ligne droite, Jean-Tug. Donc on en était avec le transhumanisme. Non. La transhumanité non plus. Qu'est-ce que tu m'as sorti juste avant? C'est l'humanité. Il y avait le mot humanité dans ce que tu as dit.
Bien sûr qu'il y avait le mot humanité. C'était donc que l'UNESCO reconnaît que certaines œuvres... méritent d'être reconnues... Par l'humanité, parce que elles sont représentatives.
C'est ça, elles vont au-delà, en fait, oui. des civilisations locales ou des cultures locales.
Voilà, c'est... Donc là, l'œuvre transcende carrément, quoi. On va bien au-delà de la technique, de...
C'est ça, donc on n'est plus du tout sur ces mêmes
mais
critères.
Mais on aura toujours la vision.
Bah, en fait, c'est
la transfiguration. Ce qui reste au bout du compte, c'est ça.
Transfiguration, c'est ça le mot que je cherchais. Donc c'est
transhumanisme, non, c'est pas ça.
Non, mais il y avait humanité, transfiguration, j'ai fait un... Bref,
un gros
me suis raté, ça arrive, tout ça. Donc c'est ça, transfiguration, et effectivement, là on dépasse tout, on n'est pas loin du côté universel, du coup.
On est carrément dans l'universalité.
C'est ça.
Ce qui... Logiquement, on peut du coup reciter Malraux, l'art, c'est le plus court chemin de l'homme à l'homme.
C'est ça. Et donc, en fait, pour ce faire, l'UNESCO va forcément avoir des critères établis.
Alors oui, quels sont les critères? Par contre, je ne les connais pas.
Eh bien, je pense qu'ils sont des critères à la fois très objectifs, qu'est-ce que ça a apporté à l'humanité,
ben oui.
Et à la fois très subjectifs. Est-ce que ça a vraiment apporté à l'humanité? Alors, je dis ça parce que à partir du moment où on est sur l'immatériel, la recette du boudin aux pommes au fin fond du Gers, hein, qui est reconnue par l'UNESCO, par exemple, hein, c'est pas le cas, mais bon, on est dans l'immatériel. Et donc en fait, ça n'apporte rien à l'humanité, ça apporte juste au local, et le fait d'être à l'UNESCO, ça va figer quelque chose qu'on ne perdra donc pas.
Alors oui, l'exemple est heureux, effectivement. Il n'est pas loin, d'ailleurs, de démolir un peu notre raisonnement.
Ah ben, complètement, c'était pour ça que je le trouve très bien, celui-là. Il est juste en train de tout démolir. Et je pense juste qu'il y a deux catégories dans l'UNESCO, en fait. Il y a effectivement quelque chose où on va dire que le pont du Gard, qui est un viaduc remarquable, qui est unique en son genre, autant en architecture qu'en âge, qu'en fonction, il fait partie du patrimoine mondial de l'UNESCO, et là, il n'est pas immatériel, hein, il est matériel, il a apporté sa pierre à l'édifice, et effectivement, il est au-delà de tout, puisqu'il est, il amène aussi bien, il y a quand même un côté œuvre d'art sur ce pont du Gard. On ne peut pas rester de marbre face à cette pierre calcaire, mais...
Le marbre est un calcaire.
C'est vrai. Et après, je pense que c'était juste une boutade, mais je pense que l'immatériel de l'UNESCO, c'est un petit peu limite. C'est plus pour ne pas perdre quelque chose. C'est pas le même objectif.
Alors, il faudrait reprendre les choses à l'envers.
Oui.
Bon, déjà, le pont du Gard n'est pas forcément une œuvre artistique, mais elle vaut déjà par sa technicité cette fois-ci.
Oui.
Ah oui, plus non, que par sa beauté. C'est un objet utilitaire.
Oui, c'est utilitaire. C'est utilitaire. C'est,
ça n'a pas voulu être autre chose.
Oui, mais ce qui est intéressant, c'est que c'était utilitaire, mais aujourd'hui, ça ne sert plus à rien, et ça ne sert plus à rien depuis un sacré moment.
Oui, effectivement, oui, si, pour le parcourir et traverser la vallée, je l'ai fait.
Oui, mais bon, il y en a d'autres, des ponts.
Mais effectivement, tu reviens au point de départ après.
Oui, c'est ça, enfin, voilà. Oh, depuis presque 1500 ans.
C'est remarquable, oui. Parce que c'est une très belle technique, c'est vraiment parfait ce genre de truc. Mais c'est un objet utilitaire en plus.
Oui, oui, donc on s'éloigne.
Ceci dit, il fait bien partie des œuvres dont il faut conserver la mémoire. Donc on les conserve. On les protège.
En fait,
c'est peut-être là qu'est l'UNESCO.
L'UNESCO est plus là pour protéger et puis garder la mémoire, en fait.
Oui, c'est pour garder une trace de ce qui a été.
C'est ça.
Et qui mérite de rester.
Et qui mérite de rester et qui a apporté et qui apportera peut-être plus.
C'est comme ton boudin aux pommes.
C'est exactement ça, ça existe.
Même s'il n'y a plus de pommes, il y aura bien toujours...
Des boudins dans le Gers, je confirme.
Voilà.
Pardon. Je suis désolé.
J'y vais. Oh là 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 là.
Désolé, désolé. Et en fait, ce qu'on est en train de dire, c'est que quand on dit comment juger une œuvre d'art...
Donc, ceci dit, l'exemple était mauvais. Quand on disait tout à l'heure, il y a une hiérarchie.
Ça, par contre, c'est
dans
sûr.
Dans les œuvres,
il y a une hiérarchie.
L'UNESCO n'est pas le meilleur exemple.
Non.
Parce que, effectivement, l'exemple est tendancieux, quoi. Il ne peut pas permettre de juger une œuvre d'art.
Et alors c'est là qu'on va arriver au fameux plus tard qui est maintenant. Aujourd'hui, 21e siècle, ce qui va faire le classement des œuvres d'art, eh ben ça va être une approche tout à fait crématistique.
Oh là là là, il est très fort, il est très fort. Mais oui.
Et oui.
Et oui, et oui, la crématistique, bien sûr.
On cautionne ou on cautionne pas, peu importe.
Qui est un dévoiement aujourd'hui de l'œuvre d'art.
Oui, mais il n'empêche qu'aujourd'hui, c'est comme ça que c'est classé.
Ouais, je ne sais pas.
C'est une référence comme une autre.
Donc, en tout cas, crématistique, bien sûr, t'imagines bien que... qui a inventé ce mot-là ?
Ouais, je dirais bien les Grecs, au hasard.
Ce sont bien les Grecs, et plus particulièrement...
Aristote.
T'es de mieux en mieux.
Aristote, ça faisait longtemps, tiens.
C'est Aristote.
On a presque tenu une heure sans en parler, mais bon, non, c'est bien.
C'est Aristote, oui, qui a défini deux types de crématistique. La crématistique naturelle,
alors là,
qui est logique.
Oui.
C'est-à-dire que tu donnes à la monnaie sa valeur d'échange.
Oui, d'accord, ça c'est... Okay.
C'est soit le troc, soit
un référentiel quelconque qui permet
d'échanger des produits, de donner une valeur.
Oui, c'est ça, donc la mention de la monnaie, en fait, le truc de base. Hein.
Voilà.
Ça, c'est.
Jusque-là, il l'admet.
Tout va bien.
La crématistique naturelle, ça, il veut bien.
Ça, c'est très bien. Okay.
C'est la crématistique commerciale qu'il condamne.
Alors,
c'est-à-dire, le moment où... le besoin n'est plus ce qui va déterminer la valeur d'un objet. Parce que c'est ça.
Oui,
crématistique naturelle, c'est ça.
Jusque-là, ça va. Ouais.
Commercial, ce n'est plus l'objet, le besoin de l'objet qui fait la valeur, mais l'argent que tu peux en retirer.
D'accord. Ah ben nous, on est dans un monde comme ça.
On est clairement, effectivement, dans une crématistique commerciale.
Oui, c'est ça, on est en...
Et l'Église catholique, chrétienne, a suivi Aristote là-dessus, jusqu'à la Renaissance. Le Moyen-Âge se base sur cette philosophie aristotélicienne.
Mm-hmm.
Tu n'avais pas le droit de faire de l'argent avec de l'argent. Tu n'avais pas le droit de gagner de l'argent si tu n'avais pas produit.
Oui, d'accord, ok. Donc on était dans le naturel, en fait, clairement.
Voilà, c'est donc... Le marchand ne pouvait pas gagner de l'argent. Il fallait que tu aies produit. Si tu achètes et que tu revends, en faisant un bénéfice, ça ne fonctionnait pas.
D'accord.
Aristote, c'est ça.
D'accord. Donc,
on pouvait dire quand même qu'il y a une petite marge.
Oui, bon, histoire d'eux, quoi. Pour ne pas perdre de l'argent non plus, mais... Ouais.
Mais...
c'est intéressant, ça explique pourquoi les marchands étaient juifs, en fait.
Oui.
Non, mais je n'avais jamais fait le lien, tu vois.
Oui, oui, oui. En plus, l'usure... c'est encore pire.
Voilà. Ouh. Et alors, les banques, maintenant...
Ils sont tous juifs.
Ouais, dans le Moyen-Âge. Voilà, mais ça explique un peu
Donc, c'est saint Thomas d'Aquin qui a commencé... Là, on s'écarte un peu du sujet. Mais qui a commencé à casser cette... il a fallu attendre longtemps après.
Oui, c'est ça. Hein.
Parce qu'il a admis quand même qu'à une époque de paix relative, il fallait bien que le marchand aille chercher sa marchandise quelque part... pour la ramener à l'endroit où il allait le vendre, enfin la vendre.
Oui, il y a des frais, quoi.
Et il y a forcément, effectivement, une nécessité.
Ça, quoi, donc,
il a commencé à admettre qu'il puisse y avoir un bénéfice à la non-production d'un bien. Mais voilà quoi, la crème artistique, c'est ça. Alors, l'art devient une valeur.
Exactement.
Et à la limite, ce n'est pas que ça. Mais hélas,
bah, ça devient
c'est trop
que ça.
Ça.
Aujourd'hui, quand on entend parler d'un point de vue médiatique d'une œuvre d'art, c'est simplement qu'elle a explosé un plafond sur une vente.
Oui, après, il y a un problème de médiatisation, c'est vrai.
Non, mais enfin, je prenais ça comme exemple. Mais aujourd'hui, même si l'art, ce n'est pas que ça, c'est quand même un peu, quand même beaucoup, ça.
Mais oui, donc, parce qu'on ne peut pas dire que quelqu'un qui achète une œuvre, un Van Gogh, à je ne sais pas combien de centaines de millions d'euros, est sûr que ça le mérite. Il n'y a pas de mérite, d'ailleurs, en plus.
Oui, parce que potentiellement, il n'y a pas de valeur. Ça,
il pense simplement, un, je me flatte de me l'acheter. Deux, c'est une valeur refuge éventuellement. Parce qu'il y a un moment donné où ça ne va pas l'être, quand même.
Mais alors, du coup, si on revient sur comment juger une œuvre d'art, en fait, ce qu'on est en train de dire, là, gentiment mais sûrement, c'est bien joli de mettre des critères, etc., etc., mais à la fin, c'est subjectif et capitaliste.
Et aujourd'hui, oui.
Aujourd'hui, oui.
C'est la alors, dimension capitaliste.
Du coup, la culture pop, c'est quoi là-dedans?
La culture pop? Qu'est-ce que tu entends par culture?
Eh ben, je sais pas. Trois graffitis, Marine Monroe en quatre exemplaires avec des couleurs différentes. Donc là, on est sur 70 et 2021. Ça fait un grand écart. Ce qu'on appelle la culture un peu... culture pop. Quoi, la musique pop. Populaire. Culture populaire. C'est moi, je veux dire, enfin, je suis fasciné par les graffitis. Enfin, fasciné. Tu passes dans la rue, t'as des graffitis sur les trains, là, t'as des graffitis, etc.
Les tags.
Les tags. Ouais, t'as des tags et des graffitis. Bon, je voulais faire. Enfin, sans faire trop de distinction. Il y en a qui t'interpellent, d'autres pas.
Oui.
Spontanément, tu regardes les wagons de train qui passent, t'as des trucs, les gars, ils sont lourds, quoi, ils ont tout cradifié. Puis il y en a d'autres, tu dis, waouh, le mec, là, il s'est lâché, il a fait quelque chose, quoi.
Oui, tout à fait.
Et donc, dans un cas, t'es sur une œuvre d'art, dans l'autre cas, t'es juste sur une dégradation. Et donc ça, c'est bien un jugement que tu fais spontanément.
Oui.
Qui est un jugement basé essentiellement sur quoi? Sur le fait que ça s'interpelle et qu'il y a une notion esthétique, globalement.
Alors, de toute façon, oui, il y a certainement une volonté artistique dans ce qui est présenté, parce que c'est pas forcément... anarchique, enfin, au terme technique, au terme. Donc, il y a forcément qu'il y a des gars qui font des tags, qui font une graffiti, qui ont une volonté artistique, au sens où ils ont une vision, ils ont une technique, ça suppose qu'elle soit excellente, la technique, si tu veux que ça soit réussi, et qu'il y ait un sens, du sens. Et si tout ça, ça t'interpelle, ça fonctionne.
Ben oui, c'est ça, c'est exactement ça.
Il faut l'osmose toujours de ces deux sensibilités, celle de celui qui produit et celle de celui qui reçoit.
En fait, le comment juger une œuvre d'art, ça revient à dire que, à partir du moment où c'est une œuvre d'art, ça veut dire que c'est jugé de facto. On l'a jugé en tant que production, en la qualifiant d'œuvre d'art.
C'est tout le problème, c'est toute l'ambiguïté de la question. Comment juger une œuvre d'art à partir du moment où on a déjà déterminé que c'était
une
œuvre d'art?
En fait, c'est une question crétine, ça.
Tu parles d'une conclusion au bout de 50 ans, de 50 émissions.
Non, mais je à la réflexion, c'est ce qu'on est en train de dire, en fait.
Oui, on nous demandait simplement de définir les critères qui permettaient de dire que... l'humanité a considéré que c'était une œuvre d'art.
Mais bon, à partir du moment où on avait dit plus ou moins déjà d'estimer qu'une œuvre d'art, ça t'interpelle, ça sert à rien, c'est le plus court chemin de l'homme à l'homme, tout ça, tout ça. Ce qu'on est en train de dire, c'est exactement ça, les critères. On a rajouté la technique histoire de dire que le mec savait faire. Mais s'il fait pas faire, c'est pas une œuvre d'art. Donc,
on peut quand même se dire que un défaut de technique peut être un élément. Je reviens à Douanier Rousseau.
Ouais, sauf que. Un défaut de technique devient une technique.
Bien sûr.
Parce que le Douanier Rousseau, son défaut de technique, il l'a quand même sacrément travaillé sur les 20 ou 30 ans où il a fait la même chose, quoi.
Oui. Il n'a pas cherché, en tout cas, à améliorer sa technique.
sa propre technique, il l'a améliorée. Enfin, je ne sais pas comment dire ça. Tu ne peux pas faire pendant 30 ans le même truc. Comment dire ?
Aussi mal maîtrisé sans le faire exprès.
C'est ça, sans maîtriser ta mauvaise maîtrise, en fait.
Oui, c'est ça.
Tu vas se dire, c'est
en faire ta facture.
C'est ça, regarde, naturellement, un gamin qui dessine un bonhomme, il dessine un rond avec des jambes, c'est lamentable. Il grandit, il parfait sa technique, il finit par dessiner quelque chose qui ressemble à un bonhomme. Ça se travaille, l'incompétence se travaille.
Et Picasso, à un moment donné, va refaire la même chose, mais ce sera génial.
Ah ouais, mais Picasso, c'est encore plus travaillé derrière. Il y a de la physique, oui. Il y a de la réflexion, il y a autre chose.
Il y a Giotto qui avait fait un tableau pour un prince quelconque. Et il l'envoie donc, c'est une commande, il l'envoie. Et le prince lui répond, mais qu'est-ce qui me prouve que c'est de vous ?
C'est vrai, c'est une bonne question.
Et donc, Giotto prend une feuille et fait un rond avec son pinceau. Un rond parfait.
Ouais, c'est fort ça.
Parfait.
Ça, c'est très très fort.
Et il le renvoie. C'est la preuve que c'est bien moi qui l'ai fait.
Ben oui, il a la technique.
Maîtrise, non ?
Oui, mais de toute façon, même en art contemporain, où là, il y a des choses extraordinaires, comment dire ? L'art contemporain, il y a des fois, il y a des trucs, c'est bizarre quand même. Hein. C'est bon. Mais il n'empêche que tous les tableaux d'art contemporain qui ont un semblant de quelque chose sont généralement faits par des gens qui ont une technique parfaite, qui maîtrisent la technique.
Aussi aberrant que ça puisse paraître.
Hein. Oui, oui. C'est-à-dire qu'ils ont. Mais c'est pareil en musique. Hein. Les meilleurs musiciens modernes pour faire du boom-boom de pop, non, mais ils ont une culture musicale.
Moins sensible, moi, déjà, à ça.
Oui, mais il n'empêche que. Quand t'as un tube boum boum rap, je sais pas quoi, là, un truc, on va être moins sensible. Quand on gratte derrière l'artiste, généralement, il y a une formation derrière qui est solide.
Il y a des bons. Il y a des bons, mais il y a pas mal de soupe non plus.
Oui, mais justement, dans les bons, il y a souvent de la technique.
En peinture, c'est plus facile à gérer. Rothko, par exemple, qui ne faisait qu'associer des bandes de peinture la plupart du temps.
Oui, d'accord.
Une couleur assez primaire.
Oui, c'est bon, j'y suis.
C'est génial. Enfin, c'est génial. C'est franchement intéressant.
C'est ça, c'est intéressant. Moi, j'ai. Oui, donc, c'est ça.
Alors que jamais qu'une bande, ce sont une succession
mais
de bandes,
c'est pareil,
même pas d'ailleurs bien dessinées. Oui. Ça
sauf se superpose plus ou moins. Mais si t'as déjà vu ses croquis, il a des croquis de personnes, il a une technique qui est remarquable.
C'est absolument remarquable.
Et ouais. On conclut quand même un peu, parce que bon, c'est l'été certes, mais on va quand même finir l'émission. comment juger une œuvre d'art ? Eh ben, comme on peut, hein.
Ça, tu parles d'une conclusion.
Non, mais on peut la juger en définissant des critères, mais qui sont quand même les critères qui font que c'est ce qui fait une œuvre d'art. Donc je
bon, on a quand même admis que c'était possible.
On n'a pas. Oui, c'est ça. Dire
alors
que
on parle simultanément de sensibilité.
Oui.
Croisée entre l'artiste et celui qui reçoit l'œuvre. Mais on a aussi parallèlement admis qu'avec un certain nombre de critères, qu'on a limités, on pouvait juger une œuvre d'art. Ce sont deux éléments qui se contredisent complètement.
C'est un peu ça qui me gêne. Enfin, mais bon, oui, on l'a admis.
On l'a admis.
On a admis qu'on pouvait se contredire, c'est pas mal. Mais ce qu'on a surtout admis, c'est que le fait de juger... c'est surtout ça, surtout qui est important, c'est que le fait de juger, ça amène un classement.
Ah oui, effectivement, juger...
ça amène une valeur différente.
Induit, malgré tout, oui.
Des valeurs, une notion de valeur.
Oui.
Dire qu'il y a des œuvres plus valables que d'autres.
En fait, c'est peut-être le nombre qui fait la différence.
Aussi. Oui, je pense que c'est surtout ça. Oui.
Parce que, après tout, oui. Si on est 10 à dire que ça correspond aux critères qu'on définit, ça ne va pas le faire. Si on est 500 millions, ça va le faire.
C'est ça. Eh bien, on va s'arrêter là-dessus. Comment juger une œuvre d'art ? Ben, il faut être nombreux.
C'est pas vraiment ce qu'on voulait dire, quand même, au départ.
Non, je plaisante. Non, mais effectivement, bon. Donc, on peut la juger avec des critères, effectivement, et ça implique un classement. Mais je crois globalement, la juger n'importe rien.
Oui, et puis bon, juger une œuvre d'art n'est pas suffisant.
C'est ça. C'est ça.
Il faut y ajouter une dimension qui, elle, ne peut pas appartenir à l'universalité, qui est nécessairement individuelle.
Eh bien, écoute, on va s'arrêter là-dessus. Le jugement d'une œuvre d'art n'est pas intéressant si on n'y apporte pas une dimension individuelle.
Oui.
Eh bien, c'est très bien. Et on va passer l'été là-dessus. Et on se retrouve en septembre, du coup.
Eh bien, oui.
Pour la 51e.
Sixième saison.
Exactement. Bon été, Jean-Tugue.
Bon été à toi, Renaud.
Allez, au revoir.
Salut.